1, 2, 3. Ça, vous étiez déjà disquaire
J'étais dans l'Eure, à Bernay, à ce moment-là. Et je me souviens être venu en promenade un dimanche et avoir visité les débuts de Radio Normandie, qui était leur studio était rue Georges Tuvier, là, en face du côté de la Bénédictine, en face Monsieur Legrand. Et c'était dans une petite bâtiment, dans un petit bâtiment du fond du jardin, où c'était, ça servait de studio.
Mais vous écoutiez déjà Radio Normandie à Bernay?
Ah oui, on l'écoutait, on l'entendait très bien, ils portaient assez loin, puisque leurs émissions portaient jusqu'en Angleterre, ils vivaient surtout de la publicité avec l'Angleterre.
C'est ça, oui.
Publicité française aussi, mais ils avaient des heures d'écoute assez longues pour l'Angleterre. Très long, le soir après 11h minuit, ça dure une partie de la nuit, les émissions pour l'Angleterre, et dans la journée aussi. Il vivait beaucoup de la publicité anglaise. Il portait assez loin. Et alors moi, je suis arrivé à Fécamp en 36. Et alors j'étais en rapport avec Monsieur Legrand, et je fournissais les disques, puisque j'étais disquaire aussi à Fécamp, je fournissais les disques. Tous les mois, je lui donnais les nouveautés, il faisait son choix, et quand c'était des symphonies, du classique, il prenait toujours en double, de manière à ne pas avoir d'interruption. S'il passait la première phase d'une symphonie, la deuxième phase passait immédiatement avec une autre série de disques sur le deuxième plateau. Et évidemment, après, ils sont partis à Côte-Bec. Je n'ai plus fourni les disques à ce moment-là, quand ils sont partis à Côte-Bec.
Mais il y avait le programme anglais, et c'est vous qui fournissiez les disques à cette époque-là?
Je fournissais les disques, oui, à cette époque-là, mais je ne fournissais pas les disques pour le programme anglais. Je fournissais tous les disques français, quoi.
Parce que le programme anglais, c'était un service complètement indépendant qui se fournissait de lui-même.
Et puis, ce n'était pas les mêmes speakers. Ils avaient des speakers rien que pour les émissions anglaises, qui était aussi longue, aussi importante. Il y a autant d'heures d'écoute que pour l'émission française, largement, ah oui.
Et les disques que vous aviez à l'époque, c'était les nouveautés, c'était carrément les grands artistes en vogue de l'époque?
Ah oui, avant la guerre, quoi. Si bien, il y avait déjà, Edith Piaf, Maurice Chevalier, tous ces artistes de l'époque. Et puis, les classiques, la même chose. Il y avait déjà des disques, Furt Wandler, tout ça, ça existait déjà à ce moment-là. Il y avait déjà pas mal d'artistes, pas tous les artistes qui, même encore, sont vendus actuellement. Il y en avait des quantités qui enregistraient.
Et vous, en tant que disquaire, est-ce que l'existence d'un programme de radio avait une influence sur vos ventes de disques?
Oui, quand même, parce que c'est tout de même à force d'entendre un succès que les gens se décident à l'acheter parce que ça leur plaît, quoi. Si, ça avait quand même une influence.
Donc parfois vous proposiez un disque, vous saviez que bon, sur tel ou tel disque ça pouvait marcher, alors vous arrangez pour le proposer à Radio Normandie.
Moi je leur donnais la liste des nouveautés, automatiquement ils prenaient tout, à peu près tout. Tout ce qui sortait. Dans toutes les marques, aussi bien chez Pathé, chez Watson-Metz, à ce moment-là, Columbia, c'était les marques de l'époque, Columbia, j'avais encore Polydor.
Et si ça, vous avez peut-être plus de souvenirs des grands artistes qui... Mais on m'a dit aussi que certains grands chanteurs de l'époque se produisaient, venaient sur place à Fécamp, participaient à des émissions.
Oui, de temps en temps, ça m'est même arrivé. Au dernier moment, je ne me souviens pas du nom de cet artiste-là, il n'avait pas de pianiste, et on venait me chercher pour accompagner la chanteuse, l'artiste, il venait. Ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer à Radio Normandie, comme ça, au pied levé, parce qu'il manquait de pianiste. Là, à ce moment-là, le studio était rue Belle Lapochaise, actuellement, là. Il y avait un studio, alors là, qui était bien aménagé, qui était déjà un studio, qui était déjà pas mal, c'était très bien leur studio. Ils avaient un magnifique piano avec Steinway, tout ça je crois que c'était pris pendant la guerre, parce que c'est dans ce studio que la commandanture était pendant la guerre. Oui. C'est curieux. Oui. La commandanture a pris possession du studio de Radio Normandie pour faire ses bureaux.
Mais Radio Normandie jouait donc un rôle important dans la vie de Fécamp.
Oui.
Enfin,
quand... oui, c'était important. Et puis, il faisait vivre quand même pas mal de gens. Il y avait tout de même... je veux dire, au point de vue fournisseur, il n'y avait pas que moi comme fournisseur. Il y avait d'autres choses qui étaient fournies aussi. Hein. Et puis alors, il avait une portée de toute la région. Quoi. C'était connu dans toute la région. On parlait de Radio Normandie, Radio Fécamp. Hein. Ça a fait connaître d'ailleurs, au point de vue publicité de la ville, c'était quand même quelque chose.
Oui. Un autre petit détail, une autre petite question sur les disques. On m'a dit que parfois les Fécampois, les Normands, écoutaient le programme anglais. On vous a parfois demandé des disques qui étaient diffusés sur le programme anglais.
Pas
énormément. Et des disques qu'on allait retrouver plus tard en France.
Pas énormément. Ça arrivait. Mais enfin, pas souvent. Non, pas tellement.
Et quand des chanteurs ou des artistes venaient se produire dans les studios de Radio Normandie, est-ce que certains venaient vous voir dans votre magasin de disques, non?
Oui, c'est arrivé qu'ils venaient quelquefois signer leurs disques, c'est arrivé. Comme c'est arrivé aussi après qu'on a eu les jeunesses musicales qui venaient. Là, la même chose, ils venaient quelquefois signer leurs disques.
Ouais.
Je me souviens plus maintenant tout ce qu'on passait là, mais... J'avais encore, je ne sais pas ce que j'en ai fait, j'avais une photo d'une artiste comme ça que j'avais accompagnée, qui m'avait laissé sa photo dédicacée. Je l'ai vue il y a quelque temps, je ne me rappelle plus. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Mais ça, pensez-vous, ça remonte en 37-38 par là.
Ça remonte loin, mais ce qu'on a du mal à imaginer, ce que j'ai du mal à cerner, c'est l'ambiance particulière qu'il y avait apparemment à faire à Dieu Normandie. Il y avait une ambiance assez particulière d'après ce que je peux savoir.
Non, je vois pas exactement ce que vous...
Parce que bon, chaque speaker s'appelait où? L'oncle Roland, oui, ou tante Francine, un petit air de famille.
André, enfin, il y avait le cousin André, l'oncle Roland. L'oncle Roland, c'était d'ailleurs lui qui s'occupait de la partie disque. C'était lui qui me passait la commande de disque. Et tante Francine, elle était speakerine. Puis alors, il y avait madame Delacour aussi, qui faisait les émissions enfantines. C'était déjà, à ce moment-là, c'était une nouveauté, ça, de faire des émissions spécialement pour les enfants. Les jeudis, il y avait des émissions enfantines, mais vraiment faites avec les enfants. Madame Delacour, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, c'est un professeur de piano ici, qui maintenant, évidemment, est disparu.
Oui, c'est ça. C'était la grande nouveauté de s'adresser directement aux enfants par l'intermédiaire oui. de la radio de la TSF.
Oui, ça, les émissions enfantines étaient très suivies le jeudi après-midi.
Je voudrais vous demander encore deux, trois précisions, parce que vous étiez, vous, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que vous vendiez des postes de radio, des postes de TSF.
Ah ben alors là, on le prenait facilement. On le prenait. On n'avait pas un poste, même avec des postes, ce qu'on appelait à ce moment-là les superthyroïdines, même très sélectifs, on l'entendait toujours au fond, un fond sonore de Radio Normandie. Parce qu'il passait les postes à galène, tout le monde fabriquait son poste à galène, tout le monde fabriquait. On m'a même dit, moi je ne l'ai pas fait, mais on m'a même dit... Et on pouvait même remplacer une galène avec une pomme de terre. C'est vous dire que on se servait une pomme de terre comme galène. C'est vous dire que ça passait d'une façon formidable. Moi, je l'ai jamais fait. Enfin, c'est des clients qui me disaient ça. Moi, j'ai réussi à capter comme ça. Ça me paraît un petit peu fort, mais enfin, on l'entendait n'importe où et avec un bout de quelques mètres d'antenne, on l'entendait très très bien. Poste à galène, c'était du... Tiesse ne faisait pas son poste à galène à cette époque-là.
Et ensuite, il y a eu l'engouement pour les vrais postes de TSF, comme l'engouement qu'il y a eu au début de la télévision pour acheter son poste de télévision.
Déjà, moi je vends de la TSF depuis 1931. Je travaillais moi avec Ducreté, avec Gramont, avec Radiola, avec différentes marques comme ça. Mais là, on avait déjà de très bons postes de TSF. À ce moment-là, c'était déjà très bien. Même des postes qui avaient une certaine musicalité, évidemment, c'est pas la technique d'aujourd'hui, pas forcément. Mais enfin, c'était déjà de très bons postes. On avait des super turbines qui étaient déjà d'un bon rendement. On captait le poste parisien, on captait tous les postes de la région parisienne, on captait Toulouse. Radio Toulouse était un poste privé comme Radio Normandie. C'était très suivi aussi, Radio Toulouse.
C'est-à-dire qu'on avait le choix entre différentes stations de radio et on prenait aussi bien telle ou telle région.
Ah oui, on avait Toulouse. Je me souviens plus tous les postes. Il y avait les postes parisiens étaient très suivis. L'autre Paris PTT, c'était pas. Il
ne
captait pas beaucoup celui-là. On ne captait pas beaucoup celui-là.
Radio Cité, oui.
Radio Cité, non, ici il ne portait pas, ici il ne portait pas. Là. Ah. Non. On avait le choix. Toulouse était très écouté aussi, Toulouse.
Mais il y avait donc une certaine concurrence entre tous ces postes.
Il y avait les postes privés, pas qu'il n'y a plus maintenant, pas il y avait les postes privés. Alors c'était d'ailleurs les postes privés qui faisaient la publicité. Ben. Les postes d'État ne faisaient pas de publicité. Ils vivaient d'ailleurs de leur publicité, comme actuellement Europe, comme fait Luxembourg, exactement pareil.
C'est ça, il y a eu un engouement qui est lié, je pense, au développement technologique des appareils, au progrès des postes de radio. D'un seul coup, tout le monde s'est mis à acheter des postes de radio et à écouter la radio.
J'ai tout de même fait les premiers essais de télévision, ça paraît peut-être un peu fort. Le premier essai de télévision, je l'ai fait en 1939, au Havre, avec la maison Gramont. Nous étions même dans le bas du Havre, je ne me rappelle plus le nom de la rue, c'est un confrère qui s'appelait Caille. Et il avait fabriqué l'antenne lui-même, parce que dans ce temps-là, vous savez, il n'y avait pas les antennes commerciales. Et on avait, le plus fort, c'est qu'on avait reçu l'image en 541 lignes à ce moment-là, où on n'avait pas eu le son. C'est curieux, mais c'est comme ça. On avait réussi à avoir l'image, c'est la première fois que j'ai vu la télévision, en 39 au Havre, en juillet 39, qui était appelé à se développer, mais il y a eu la guerre, évidemment, à ce moment-là. Il y a eu un arrêt carrément de 4 ans, de 5 ans.
Ouais. Et c'était un essai de télévision entre quelle ville et quelle ville, entre quel point et quel point
De Paris. C'était pareil, il n'y avait pas 36 émetteurs, il y avait que la Tour Eiffel à ce moment-là. C'était le seul émetteur en France, la Tour Eiffel.
Vous avez capté au Havre une émission de télévision en provenance de Paris.
De la Tour Eiffel, venant de la Tour Eiffel, en 441 lignes à ce moment-là. Et alors, il faut aller voir l'antenne qui avait été faite d'après les plans de Gramont. Ce n'était pas du tout une antenne comme maintenant, c'était une antenne... Évidemment, qu'il fallait respecter les données, les cotes, les longueurs d'onde, mais très importante sur le toit. Et je vous dis, on avait réussi à capter l'image, mais on n'avait pas eu le son. C'est la première fois que j'ai vu la télévision. Puis, évidemment, après, c'était après la guerre. Voilà.
Mais quel souvenir vous gardez, vous, de cette époque glorieuse de la radio et de Radio Normandie? Quelle image ça évoque quand on vous parle de Radio Normandie? Difficile, hein?
Oui.
Alors, pour terminer, je voudrais vous demander donc à cette époque-là, se lancer dans la radio, croire en la radio au tout début, disons, vers 1930, au début de 1930,
oui, c'était, moi,
c'était une affaire de passionné, d'aventurier, parce que c'était pas évident que ça marche. Si.
C'était déjà pas mal répandu, seulement évidemment, c'était un marché neuf, hein, qui était ouvert, et il fallait foncer dans le brouillard, c'est le cas de le dire. Il fallait pas avoir peur d'aller tirer les cordons de sonnette, parce que on n'attendait pas toujours le client dans le magasin, il fallait aller voir le client, le solliciter, lui faire des essais. Aujourd'hui, vous vendez un poste, le client s'en va avec le poste, mais à ce moment-là, il fallait lui faire essayer, lui laisser quelques jours pour qu'il puisse voir si ça marche. C'était pas du tout la même méthode qu'aujourd'hui, parce que c'était le début, la radio. Tout le monde n'avait pas un poste de radio. À Fécamp, tout le monde avait à peu près son poste de radio. Si ce n'était pas un poste du commerce, c'était un poste qu'il avait fabriqué lui-même pour prendre Radio Normandie. Parce que c'était tellement facile à prendre.
C'est une époque qui a bien changé.
Ah oui, c'est pas... Sous tout rapport. Et puis alors les prix, il faut voir les prix. À ce moment-là, on vendait... Je me souviens comment on vendait du poste à 500 francs, les premiers prix 500 francs, anciens. Ce qui fait 5 francs actuels, rendez-vous compte, les petits postes 4-5 lampes, on vendait ça à 500, 600 francs, 700 francs. et un poste de marque comme Grammont. J'avais Grammont à ce moment-là. Son premier modèle était à 1095. C'était déjà un très très bon modèle. Et après, il y avait 1500 francs, 2000 francs. Et les plus beaux postes atteignaient 2005, 3000 à peu près. Anciens à ce moment-là. Ah, c'est pas comparable avec aujourd'hui. Ouais.